C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes ? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert ? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Peter Pan. Ce petit garçon n'était pas tout à fait comme les autres. Il vivait avec les fées, les bêtes sauvages, les peaux rouges et les pirates. Son royaume, c'était l'île de Jamais Jamais. Sur cette île, Peter faisait ce qu'il voulait. Personne ne l'obligeait à aller à l'école. Jamais. Personne ne l'obligeait à se brosser les dents. Jamais. Personne ne l'obligeait à manger des épinards. Jamais. Et en plus, il pouvait quitter son île quand ça lui chantait. Aucune frontière, aucun douanier ne pouvait l'arrêter. Peter Pan avait le pouvoir de voler. Pourtant, presque toutes les nuits, il pleurait en dormant. Roulé en boule dans un nid qui lui servait de lit. En boule, comme un petit qui va naître. Il dormait en pleurant. Peter Pan avait un secret. Un secret si secret qu'il ne savait plus lui-même où il l'avait caché.
Salut, c'est Charles Cécile. Aujourd'hui, on va vers le soleil, Montpellier exactement, pour rencontrer la conteuse Paul Latore. Paul est née en 1958 en Algérie et elle doit quitter son pays natal à la suite de ce que l'on a appelé pudiquement les événements d'Algérie. Peut-être est-ce de cette drôle d'histoire triste qu'elle garde son exigence à dire des choses telles qu'elles sont, sa passion du mot juste et des choses claires, son intérêt pour le mouvement et sa combativité positive. Sans doute est-ce aussi de ce pays qu'elle a emporté avec elle le goût des échanges et des rencontres humaines. Musicienne et musicothérapeute, elle devient conteuse à la fin des années 90. Et c'est en 2005 que, accompagnée par Bruno de la Salle, elle entame son travail sur Peter Pan. Alors, ce Peter Pan, peux-tu nous en parler ? Peux-tu d'abord nous dire d'où il vient, de qui viennent ces textes ?
Alors, James Matthew Barry, je parle très très mal l'anglais, hein, ça s'écrit B-A-2-R-I-E, est un écrivain écossais. Et en fait, ce personnage de Peter Pan, on le retrouve avant même la pièce de théâtre et avant même le roman, dans d'autres écrits. C'est pour dire que c'est un personnage qui l'a hanté toute sa vie et sans doute pas pour rien en vue de sa propre histoire. Donc, si on prend ce qui est connu de Peter Pan et ce sur quoi moi j'ai travaillé, au départ, c'est une pièce de théâtre, 1904, la première représentation. Et cette pièce de théâtre, en fait, d'après ce que j'ai lu, ce serait le premier spectacle jeune public, avec effets spéciaux,
des lumières.
Et puis des fils qui étaient au plafond sur lesquels il glissait pour pouvoir voler. Enfin voilà, c'était comme ça, très visuel quoi.
Un petit peu à l'image des comédies qu'on jouait autrefois finalement.
Sans doute,
avec
oui.
Beaucoup d'appareillages, les opéras, tout ça.
Ouais.
Alors, En fait, ce monsieur écrit un texte. Il a été sans doute pas mal joué dans le siècle dernier.
En Angleterre, il est joué très souvent à la période de Noël. Les Anglais ont lu ce livre. C'est quand même une histoire forte, je crois, en Angleterre, d'après ce que les gens m'en ont dit. Parce que lorsqu'il y a des Anglais qui sont venus voir ce texte, enfin venir l'écouter, ils ont parlé de ça, du fait qu'eux connaissaient l'histoire, qu'ils l'avaient lu, etc. Alors qu'en France, c'est très très rare les gens qui ont lu le texte de Barry. La plupart des gens connaissent le dessin animé de Walt Disney, qui est quand même...
Alors, oui, quand même. Alors, on laissera un flou artistique voilà. Sur le quand même. Et toi, Paul Lator, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce Peter Pan de James Matthew Barry? C'est dur à retrouver comme...
C'est pas dur à retrouver, c'est dur à résumer, à rassembler. Peut-être que la première chose qui m'a intriguée, c'est un article de journal où il était question d'un essai d'une psychanalyste qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Peter Pan ou l'enfant triste ». Alors ça m'avait intriguée parce que je n'imaginais pas du tout Peter Pan comme un enfant triste. Ensuite, mais ce n'est pas tout de suite ça qui a fait que je me suis mise à ce travail. Ce qui a déclenché ce travail, c'est une rencontre avec Pascal Quéré.
Ah, voilà. Pascal Quéré, grand spécialiste des Frères Grimm, mais il t'a parlé de Peter Pan, non?
Il m'a parlé de ce bouquin-là. En fait, on a eu toute une discussion philosophique et intime, donc je ne vais pas tout raconter, sur ce que c'est être un homme, une femme, un adulte... etc., les choses qui nous rendaient tristes, les choses qui nous rendaient gays, ce qui était difficile dans la vie, ce qui était stimulant, enfin, voilà. Et parlant de nos propres difficultés d'êtres humains, il a fait référence à ce bouquin. Et ensuite, je l'ai lu, ce livre. Et cette femme qui a écrit ce bouquin, en fait, elle est hongroise, et elle a dû quitter son pays natale et ne plus jamais y revenir. Et donc, dans son bouquin, elle parle de ça, de la réalité de l'exil, on va dire, mais elle parle aussi de ce texte qui la touche en tant qu'œuvre littéraire, et elle parle des patients qu'elle a eus en consultation et qui avaient des difficultés qu'elle reliait. Alors, pas au syndrome de Peter Pan, qui est quand même un concept très, très américain. Bon, enfin, bref, voilà. C'est comme Walt Disney, c'est point de suspension.
Mais quand même. Alors, pour les auditeurs qui connaissent un petit peu moins Peter Pan, sans parler de détailler le syndrome Peter Pan, en gros, Peter Pan, c'est une histoire de passage de l'enfance au monde adulte, c'est cela?
C'est Peter Pan... Alors, on dit que c'est un petit garçon. Déjà, ce n'est pas vraiment évident pour moi. Et d'ailleurs, ça n'est pas un petit garçon, mais bon. Mais enfin, c'est quelqu'un qui ne veut pas grandir. Qui ne veut pas, c'est ce qu'on dit. Il ne veut pas. Moi, dans l'exploration que j'ai fait...
Le petit-il.
Le petit-il, voilà. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est comme ça? Et tout est ambigu, de toute façon. Ce texte, c'est l'ambiguïté même. Et le personnage de Peter Pan, lui-même, dès le départ, et pas même son nom... Peter Pan, il a un prénom, voilà, tout à fait banal, et Pan, c'est le dieu grec. Hein. Donc, déjà, il a un nom double, et pour moi, c'est évidemment pas un être humain
habituel.
Voilà, il a quelque chose peut-être d'un demi-dieu. En tout cas, il a des pouvoirs extraordinaires. Il ne grandit pas. Il oublie tout. Il est pour moi un personnage à la fois fascinant et à la fois, on pourrait dire, terrifiant. Si on le prend vraiment tel qu'il est décrit à certains moments du texte, c'est quelqu'un de dangereux et qu'il faut à la fois côtoyer. C'est mon point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, Peter Pan est un personnage qu'il faut côtoyer si on ne veut pas rester dans le monde rationnel, ennuyeux, voilà, bon, société de consommation qui était déjà quand même relativement en place à cette époque-là. Et à la fois, il y a des pièges dans l'imaginaire. Sur l'île de Jamais Jamais, par exemple, ils tournent en rond, les uns derrière les autres, sans jamais s'attraper, par exemple. Il y a des détails comme ça. Donc, aucun endroit n'est idéal. C'est ce que je trouve intéressant dans ce texte. Londres, ce n'est pas idéal, mais l'île de Jamais Jamais, ce n'est pas idéal non plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'idéal? Point d'interrogation. En tout cas, moi, ce qui m'a semblé, c'est que ce qui était intéressant, idéal, j'en sais rien, mais intéressant, c'était la tension entre ces deux endroits totalement différents et qui avait sûrement un intérêt, peut-être que l'intérêt dans la vie, en tout cas moi c'est ce que j'en conclue, enfin pour le moment c'est là où j'en suis avec cette histoire, c'est qu'en fait ce qui est passionnant c'est le mouvement et le voyage, aller d'un endroit à l'autre, aller à Londres, aller, il n'y a pas de séparation totalement puisque la personne fait le lien. Il faut aller à Londres, il faut aller sur l'île de Jamais Jamais, il faut se barrer de Londres, il faut se barrer de l'île de Jamais Jamais, il faut faire le voyage, il faut faire le pont entre les deux, il faut sans doute harmoniser quelque chose en nous de ces deux lieux insatisfaisants. Enfin, c'est là où j'en suis, mais j'ai eu plein de théories différentes sur ce texte depuis que je le raconte.
Aussitôt, la fenêtre de la chambre s'ouvre joyeusement, les lanternes ferment leurs yeux, et une autre lumière minuscule éclaire alors la pièce. C'est la fée Clochette. Elle accompagne Peter Pan. Sur l'île de Jamais Jamais, toutes les fées sont amoureuses de Peter Pan. Mais Clochette est la seule à le suivre partout. Ce soir-là, elle l'a suivi jusqu'à Londres pour l'aider à retrouver l'ombre. Elle fouille toute la chambre. Les poches, les boîtes, le coffre à jouer, les tiroirs, et elle trouve. Elle appelle aussitôt Peter. Elle l'appelle dans la langue des fées qui sonne comme une clochette d'argent. Peter ouvre le tiroir de la commode, il attrape son ombre, et en refermant ce tiroir sans l'apercevoir, il enferme Clochette. Il essaye ensuite de recoller son ombre à son corps, mais rien à faire. L'ombre ne veut pas reprendre sa place. Alors Peter se couche par terre et se met à pleurer. Wendy se réveille, elle dit... Pourquoi tu pleures, petit garçon? Peter bondit sur ses pieds et répond qu'il ne pleure pas. Il ne pleure jamais, d'ailleurs. Il n'arrive pas à recoller son ombre, c'est tout. Wendy lui répond, faut pas la recoller, ton ombre. Faut la recoudre. Je veux bien le faire, mais je te préviens, ça va te faire un petit peu mal. Oh, ça m'étonnerait. Peter serre bien fort les dents et ne bouge plus. Wendy était une petite fille très curieuse. Tout en cousant, elle l'interrogeait. Elle voulait savoir où Peter habitait. La deuxième à droite et droit devant jusqu'au matin. Quelle drôle d'adresse. C'est l'adresse de ta maman? J'ai pas de maman. Wendy lui dit que c'était bien normal de pleurer quand on n'avait pas de maman. Mais Peter répondit qu'il n'avait pas pleuré, qu'il ne pleurait jamais d'ailleurs et qu'il n'avait pas besoin de maman. Wendy termina sa couture, puis elle lui dit « Tu as été drôlement courageux, Peter. Si tu veux pour la peine, je vais te donner un baiser. » Mais Peter ne savait pas ce que c'était, un baiser. Jamais personne ne l'avait embrassé. Alors il tendit la main pour prendre cette chose, ce baiser qu'elle voulait lui donner. Wendy ôta son dé à coudre et le posa dans la main tendue de Peter. Il regarda longuement le dé, puis il donna à son tour un baiser à Wendy. C'était un gland de chêne qui servait de bouton à son costume de feuilles sèches. Wendy attacha ce gland de chêne au collier qu'elle portait autour du cou. Elle l'attacha avec précaution, comme un porte-bonheur. C'est alors que Peter entendit les tintements de la fée Clochette enfermée dans le tiroir. Il la libéra aussitôt. Clochette était folle de rage. Elle pesta contre cette Wendy, sa couture et son blablabla. Et comme personne ne faisait attention à elle, Clochette jura de se venger. Pendant ce temps, Wendy interrogeait Peter. Elle voulait savoir s'il connaissait beaucoup de fées. Il répondit qu'il y en avait de moins en moins. Dès qu'un enfant dit « je ne crois pas aux fées », il y en a une quelque part qui tombe raide morte. Et de plus en plus d'enfants disent « je ne crois pas aux fées ». Pourtant, les fées sont nées d'un rire d'enfant. Quand le premier de tous les bébés s'est mis à rire pour la première fois, son rire s'est brisé en éclats et chaque éclat est devenu une fée. Wendy voulait en savoir toujours davantage. Elle posa 1000 questions sur l'île de Jamais Jamais et sur Peter. Quand elle lui demanda son âge, il dit « je sais pas, mais je suis très jeune. Je suis partie juste après ma naissance. Je suis partie quand j'ai entendu mon père et ma mère parler de moi et parler de ce que je ferais quand je serais grand. Je veux pas devenir grand. Je veux rester un petit garçon et m'amuser. Alors je me suis envolée vers l'île de Jamais Jamais et maintenant je vis comme je veux, avec les fées, les bêtes sauvages, les peaux rouges, les pirates. » Wendy était émerveillée. Pourtant, au cœur de ces merveilles que Peter lui contait, elle devinait un secret. Elle voulut savoir pourquoi Peter était venu à sa fenêtre. Il dit que c'était pour écouter des histoires. « Ta maman racontait une histoire drôlement belle l'autre soir. C'était l'histoire d'un prince. Il cherche une demoiselle qui a perdu sa chaussure en verre et je ne sais pas s'il l'a trouvée. »
Paul Lator, tu accompagnes le récit de Peter Pan d'un drôle d'instrument qui s'appelle...
Qui s'appelle un hang. Donc ça s'écrit H-A-N-G, ça veut dire « main » en suisse allemand. Donc c'est un couple de percussionnistes suisses qui a mis au point cet instrument. Et moi, je l'ai vu cet instrument au Festival d'Avignon avant de me mettre au travail sur Peter Pan.
Et t'as flashé ?
Et je me suis dit, pour moi, ça a été évident dès que j'ai vu cet instrument, que si je trouvais le moyen d'entrer dans cette histoire, ça serait accompagné de cet instrument qui, aussi bien au niveau de ses sonorités que de son aspect, est pour moi... idéal pour cette histoire.
Pourquoi l'aspect ? Parce qu'il est rond ?
Parce qu'il est rond, parce qu'il ressemble à une soucoupe volante. Je dirais aussi, pour moi, il ressemble aussi à un ventre, un sein. Tout ça qui est tout à fait dans le texte.
Anne Massive, Once Again, duo de Hang. Thank you. Ça a été difficile de transformer ce texte de Matthew Barry en récit, en texte à dire. Quelles difficultés as-tu rencontrées ?
Les difficultés, déjà, elles étaient liées au texte lui-même. Parce que moi, ce texte, je l'ai lu beaucoup, 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 dans ces deux traductions. Puis avec le texte anglais à côté, parce que je ne parle pas très bien l'anglais, mais avec les traductions, ça allait. Pour moi, il n'y avait pas de difficulté à dire à l'oral ce texte. Il me semblait que ce texte était oral. Enfin, je ne voyais pas en quoi il ne l'est.
Et qu'il allait de soi, quoi, en
oui,
fait.
Oui, enfin, hein. Voilà. Pour moi, ce texte, voilà. Et donc, j'étais dans l'atelier de Bruno de la Salle, l'atelier Fahrenheit. Et Bruno de la Salle n'avait pas du tout cet avis. Et les gens qui étaient stagiaires aussi, enfin, qui travaillaient dans cet atelier, bah, me disaient, bah, non, ça passe pas à l'oral. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas pourquoi ce texte ne passait pas à l'oral. Donc déjà, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était une écriture orale. Parce que moi, je racontais, avant de rentrer dans l'atelier, je racontais les contes, on va dire, dans une langue quotidienne. Il y avait peu de différence entre le langage que j'utilisais pour raconter une histoire, quelle qu'elle soit, quel que soit son genre. Hein, c'était une grave erreur, mais je ne le savais pas. Je racontais presque, quasiment comme je parlais dans la vie. Quel que soit le registre. Alors voilà, c'était une parole très populaire. Et pour moi, le conte était un art populaire et on racontait une histoire comme on parlait dans la vie. Et quand j'ai rencontré Bruno de la Salle, alors lui, ce n'était pas du tout sa conception, pas du tout son travail, etc. Lui, il travaille sur la langue, il travaille sur la métrique, il travaille sur la composition, enfin, tout un tas de choses que je ne connaissais pas. Du coup, ce texte me paraissait parfaitement adapté. Et ça n'était pas le cas. Donc j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était une écriture orale. Et en fait, je ne l'ai pas compris. C'est juste un jour, j'en ai eu ras-le-bol, qui me disent que ça n'allait pas, que c'était pas audible, qu'on comprenait rien, que ceci, cela. Je me suis dit, ah bon, alors il veut, hein, alors moi je vais faire, puisqu'il me demande de faire ce que je sais, ben moi je sais pas faire grand-chose, je sais faire, il était une fois un petit garçon qui s'appelait Peter Pan. Je lui dis, voilà, alors moi, tu vois, si je fais quelque chose, c'est ça. Il m'a dit, c'est très bien, continue. Donc, voilà, j'ai continué. Et en fait, il m'a énormément aidé. À l'époque, on travaillait très, très tard le soir au Clio jusqu'à...
Qu'est-ce que tu as gagné ? Qu'est-ce que tu as gagné en quittant l'oralité, je dirais, tous les jours pour une oralité plus travaillée ? Qu'est-ce que tu as gagné ?
Ben, j'ai gagné, je ne sais pas si j'ai gagné quelque chose. Enfin, si, moi, j'ai gagné un plaisir, une découverte, à affiner comme ça les sons, être sensible au temps, quel temps on utilise, sentir tout ça, la différence, ce qu'un temps amène comme distance ou rapprochement, comme des mouvements de caméra. Bon, toutes ces choses subtiles, voilà. Mais je pense que surtout les histoires ont gagné dans le sens que je les ai considérées autrement, pas de simples objets. Et d'ailleurs, c'était une grave erreur de considérer, parce que c'était un art populaire, que ça devait être simple. Ça, c'était un cliché terrible quoi, hein, que j'ai transporté un certain temps. Les arts populaires, la musique populaire est tout à fait subtile. Mais je ne le savais pas. Donc, j'espère rentrer dans cette subtilité.
Parce que précisément, quand le rendu est donné, les choses paraissent faciles, les choses paraissent très simples. Mais en fait, là, ce dont tu parles, c'est toute la partie construction pour arriver à des choses sensibles, fines, rythmées.
Oui, et puis aussi dans Peter Pan, l'autre difficulté, c'était qu'il se passe en réalité très peu de choses. Le conte, c'est des actions. Il y en a très peu dans Peter Pan. Quand ils vont sur l'île, bon, voilà, ils nagent avec les sirènes, ils font quelques trucs, mais pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de grande aventure. C'est un texte philosophique. Barry n'arrête pas de faire des remarques, des considérations philosophiques. C'est très, très, très mental.
Il y a une tension, quand même, une tension du début jusqu'à la fin sur cette problématique de l'enfance et de... On sent bien qu'il y a quelque chose derrière qui est à la fois profond et menaçant, finalement.
Voilà, mais c'est pas dans les actes. c'est pas dans des actions. Et pour un conteur, c'est drôlement compliqué quand il n'y a pas beaucoup d'actions. Donc, il a fallu que j'aille chercher toutes les actions qu'il y avait, certaines, les recomposer à partir de l'ambiance, recomposer des actions, pour que quand même ce récit avance. Sinon, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de considérations. Pas assez de matière active pour un conteur. Donc, la composition, la musique, ce que Bruno appelle les paquets, c'est-à-dire bien cerner chaque épisode, qu'il soit vraiment ramassé, dire l'essentiel, enlever tout, ce qui n'est pas absolument nécessaire pour l'intrigue, trouver un fil et ne suivre qu'un fil, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres fils que j'aurais pu tirer. Il a fallu que j'en détermine un et que j'élimine des choses que j'adorais, parce qu'elles n'étaient pas, elles embrouillaient ce fil, on va dire. Voilà, donc c'est tout ça. Mais en vérité, tout ça, ça sert à pouvoir écouter ensemble, à ne pas être perdu, à pouvoir goûter chaque moment proposé. Alors, il y en a peu, finalement, dans une heure, par rapport à la richesse de ce texte. Hein, voilà. Mais c'est être ensemble pour goûter chaque moment dans ses sensations. Voilà, il fallait trouver. Et les sensations, ils sont, mais... Et que ça ne soit pas trop bavard, quoi. Ça c'était difficile. Que ça ne soit pas trop bavard, qu'il y ait des images, qu'il y ait...
Pendant ce temps, sur l'île, la vie reprenait peu à peu son cours. Quand Peter Pan n'est pas là, l'île de Jamais Jamais se roule en boule et s'endort. Mais, dès qu'il revient... La nature s'éveille et les habitants se secouent. C'est ce que firent les enfants perdus. Ils s'éveillèrent, ils se secouèrent et se mirent à marcher autour de l'île. Oh là là, oh là là, ah 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 ah. Les enfants perdus cherchaient Peter Pan, leur capitaine. Ils se secouèrent et se mirent à marcher autour de l'île.
Oh lélé, oh là là, ah 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 ah.
Les pirates cherchaient les enfants perdus qui cherchaient leur capitaine. Ils tournaient tout autour de l'île de Jamais Jamais. Dès que les pirates commencèrent à tourner, les peaux rouges s'éveillèrent, ils se secouèrent et se mirent à marcher autour de l'île. Et puis ça pouvait tourner longtemps, voyez-vous, parce qu'ils allaient tous à la même vitesse. mode, alors il tournait, et puis il tournait, et puis il tournait. Olélé, olala, ha 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 ha.
Olélé, olala, ha 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 ha.
Comme leur capitaine n'était pas sur l'île, les enfants perdus quittèrent la ronde et rentrèrent chez eux.
Olélé, olala, haha.
Mais comme les enfants perdus ne tournaient plus, les pirates quittèrent la ronde et rentrèrent chez eux.
Oula, oula.
Mais comme les enfants perdus ne tournaient plus, comme les pirates ne tournaient plus, les peaux rouges quittèrent la ronde et rentrèrent chez eux. Oui, mais comme plus personne ne tournait, les bêtes sauvages quittèrent la ronde et rentrèrent chez elles.
Pour arriver à ciseler comme ça un petit bijou d'où on a éliminé finalement les choses qui ne sont pas utiles, c'est un travail de longue haleine. Tu peux nous dire à peu près combien de temps ça t'a pris, cette affaire ?
Ben, juste établir le texte de base, on va dire, c'était 2 ans. 2 ans à l'atelier Fahrenheit. Après, Bruno m'a proposé, comme je jouais de cet instrument, de me mettre debout. Parce que moi, je jouais de cet instrument était posé sur moi, je ne bougeais pas, ça m'arrangeait, je ne bougeais jamais quand je racontais. Donc là, j'avais une bonne raison de ne pas bouger, c'était formidable, sauf que lui, évidemment, est venu me dire « ça ne va pas, cette histoire ne peut pas se jouer assez ». Donc je me suis mis debout, ce qui a été assez difficile, qui m'a provoqué un eczéma, enfin bon, des trucs comme ça. Et puis, j'étais bien embêtée quand même avec ce corps-là dont je ne savais que faire. Et pour m'aider à travailler cet aspect, je suis allée voir Pierre Rosa, qui est conteur, mais enfin qui était surtout à l'époque comédien plus que conteur à cette époque-là. Et on a fait des tentatives, je montais sur des boîtes, enfin tout un tas de trucs que je n'ai pas conservé par la suite, mais qui m'a permis de plus être aussi mal à l'aise physiquement. Et une chose qui m'a fait très plaisir un jour, c'était une... Parce que pour moi, franchement, bouger, c'était vraiment compliqué. Et un jour, il y avait une tournée au Nord-Pas-de-Calais, conteur en campagne. Et alors, j'avais raconté dans un village. Et il y a une femme qui est venue me voir. Et elle était danseuse, cette femme. Bon, je ne le savais pas, mais elle est venue me dire « Ah, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est vous voir bouger. » Oh, je me suis dit « Oh là là, quel compliment !» Parce que alors, vraiment, c'était la dernière chose que j'aurais imaginé qu'on me dise, tu vois, quand j'ai commencé. Donc ça m'a donné aussi... Une liberté, une tranquillité. Ça m'amuse moi-même de faire ça, de monter à cheval sur l'objet sur lequel je m'assois, qui n'est jamais le même. Ça dépend ce que je trouve dans la salle où je joue. Voilà, mais mettre à cheval, m'asseoir, mettre le hang sur mes pieds, tourner autour. Enfin, tout ça, c'est des jeux, mais c'est des jeux qui servent à donner des images aussi et qui me servent à moi, à jouer au bon endroit, enfin, du moins, c'est ce que je m'efforce de faire, de jouer au bon endroit pour qu'il y ait à la fois quelque chose du jeu là-dedans, parce que Peter Pan est quelqu'un qui joue beaucoup. C'est un joueur. Mais, et à la fois, les failles. Parce qu'il y a des moments où... il y a un moment particulièrement où il ne peut pas où il ne peut plus jouer, où il ne peut plus faire semblant. Il fait ça très très bien, semblant. Et il y a un moment où il ne peut pas.
Alors, Le secret de Peter Pan, c'est le titre de ton spectacle. Pourquoi Le secret de Peter Pan ?
Ben c'est justement l'endroit où il dit son secret. C'est cet endroit-là où il ne peut plus jouer. Là, il ne peut plus du tout jouer. Il peut tout le temps, il biaise tout le temps. Il est très capable de passer comme ça. Il pleure et puis on lui dit « Ah, pourquoi tu pleures ?» Il dit « Mais comment ça, je pleure, je ne pleure jamais. » Enfin, il nie tout, il fuit, il évite. Et puis, au moment où il dit son secret dans le spectacle, c'est le seul moment où il peut plus jouer, où il peut plus faire semblant. Là, il est face à son angoisse.
Oui,
Et à sa tristesse et à son drame.
Dans leur maison souterraine, les enfants perdus n'avaient rien entendu. Ni le cri de crochet, ni le tic-tac du crocodile. Ils sortirent tranquillement de leur cachette de tronc d'arbre. Bon Zig, le petit en l'air de la bande dit « Oh, je vois une merveilleuse merveille! Un grand oiseau blanc qui vole dans le ciel !» C'était Wendy en chemise de nuit qui volait au-dessus de leur tête. Clochette tournait de tournelle en criant « Peter vous ordonne d'abattre le Wendy !» La guigne, le plus malchanceux de la bande, était le seul à avoir son arc sur lui. Il visa, il tira, et Wendy s'effondra sur le sol. Clochette s'envola en ricanant comme un petit diable. Elle avait trouvé le moyen de se débarrasser de Wendy à tout jamais. Les enfants perdus s'approchèrent du grand oiseau blanc. Ils l'observèrent silencieusement. La plume, le plus savant de la bande, dit « Je crois que c'est pas un oiseau. Je crois que c'est une dame. » Au même instant, un cocotricot triomphant, les fissures sautaient, Peter Pan était là. Les enfants perdus se mirent en rond en essayant de cacher Wendy derrière eux. Peter se posa sur le sol. « Salut les gars, j'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé une maman pour nous. » « Comment ça, vous l'avez pas vu ? Comment ça ? Elle voulait pourtant de ce côté. » Alors la ligne, sans dire un mot, sortit du rang, écarta les enfants perdus, et Peter vit Wendy, allongé sur le sol, le cœur transpercé. Il se pencha doucement sur elle et il vit que la flèche avait été arrêtée par un gland de chêne. C'était le bouton de son costume de feuilles sèches. Vous vous souvenez ? Il lui avait donné là-bas, à Londres. Elle l'avait accroché à son collier comme un porte-bonheur. Il dit, regardez les gars, la flèche a été arrêtée par un baiser que je lui ai donné. Ouais, mon baiser lui a sauvé la vie. Les enfants perdus étaient bien soulagés. Peter dit, pendant qu'elle dort, on va construire une petite maison autour d'elle. Amenez ici ce qu'on a de mieux. Et c'est à ce moment-là que John et Michael font leur apparition. Ils n'ont pas le temps de souffler. Peter déclare que les frères Darling font désormais partie de la bande des enfants perdus et que tout le monde doit construire au plus vite la petite maison de Wendy. Dès que la petite maison fut terminée, Peter frappa poliment à la porte. Une dame ouvrit, c'était Wendy. Les enfants perdus lui demandèrent immédiatement de devenir leur maman. Elle accepta. Elle les remercia pour la jolie maison qu'ils avaient construite pour elle. Après quoi, elle les fit tous entrer à l'intérieur et elle leur raconta la fin de Cendrillon. Et si jamais vous vous demandez comment ils pouvaient tous contenir dans cette petite maison, eh bien sachez que l'on peut se serrer à l'infini sur l'île de Jamais Jamais.
Alors, Wendy, c'est un personnage de ton spectacle.
Wendy, c'est la fille de Madame Darling.
Yes, Madame,
Madame
Darling.
Madame Darling a trois enfants. Enfin, Madame et Monsieur Darling. Enfin, Monsieur Darling. Bon. Et a trois enfants. C'est Madame Darling qui raconte les histoires. C'est pour ça que je parle d'elle avant lui. Elle a trois enfants, Wendy, John et Michael. Et Wendy et Peter n'a rien à faire de John et de Michael. Il les emmène parce qu'il est bien obligé. Mais celle qui l'intéresse, c'est Wendy. Non, pas du tout qu'il soit amoureux d'elle. Enfin, il y a des filles.
Elle le croit, non ?
Ah, mais elle est amoureuse de lui.
Ah, voilà, c'est ça.
Elle est amoureuse. Mais lui, il n'est pas amoureux. Il n'est pas capable de ça. Il n'y a que lui. Peter Pan, il est, en tout cas psychiquement, je ne sais pas comment dire, très petit. C'est-à-dire, il est à l'âge où il n'y a que soi.
où l'autre n'existe pas. Il n'y a, ouais, y a pas de place pour l'autre. Et d'ailleurs, Clochette est dans le même état. Barry dit... ah, mais c'est pas qu'elle est méchante, Clochette, quand elle fait des couvaches et tout ça. C'est pas qu'elle est méchante, Clochette. C'est juste que le cœur des fées est trop petit pour contenir deux sentiments à la fois. Donc, elle est soit tout à fait gentille, soit tout à fait méchante, mais voilà... Et donc, lui, il est comme ça. Il n'y a pas d'altérité. Il n'y a pas l'autre. Il ne sait pas ce que c'est un baiser. On ne l'a jamais embrassé. Il est vraiment...
Tout glisse sur lui, en fait. Tout glisse sur lui.
Il fait en sorte que tout glisse sur lui. Il s'efforce. Il s'efforce. Il ne veut pas connaître le malheur. Mais il le connaît très, très bien. En vérité, il connaît très bien. Il a touché du doigt l'angoisse, pour moi, qui est l'angoisse existentielle fondamentale. Il l'a touché du doigt tellement précisément qu'il ne veut plus en entendre parler. Lui, il veut s'amuser, il veut rester un petit garçon, il veut jouer, plap, 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 plap. Et ça, quand même, il y a quelque chose de cet aspect que chacun de nous, peut chacun reconnaître ça en nous, mais qui est très, je trouve, valorisé dans notre société. Donc, en même temps... Je trouve que ça vaut le coup de dire, là aussi, il y a un piège. Hein? Se baigner dans le malheur n'est pas une bonne idée, mais faire comme si ça n'existait pas, je pense que
c'est pas tellement mieux non plus. Cette Wendy raconte des histoires ?
Oui.
Ah.
En fait, Peter Pan, lui, il n'aime pas du tout les mères et tout ça, tout ça. Mais pour lui, une mère, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Donc, il vient la chercher pour qu'elle raconte des histoires, pour qu'elle raconte des histoires... aux enfants perdus et à lui-même. À un moment donné, Wendy lui demande « Mais pourquoi tu es venu à ma fenêtre ?» Et il dit « C'est pour écouter des histoires. » Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup intéressée. Ça fait partie des choses qui m'ont accrochée dans le texte de Barry et qui m'ont donné envie de raconter. C'est que Peter Pan aime les histoires, ce que je ne savais pas, puisque je ne connaissais que Walt Disney, moi aussi. Il aime les histoires et il vient écouter Cendrillon. Pourquoi Peter Pan aime tant Cendrillon ? Pourquoi il a tellement envie de savoir comment finit cette histoire ? Pourquoi ça l'accroche à ce point, Cendrillon ?
Tu peux nous dire un petit peu nous dire un petit peu pourquoi ? Parce que là, tout à l'heure, on n'a pas trop développé le secret de Peter Pan, mais là, on reste dans un...
En tout cas, moi, la version que je raconte, là, comme j'ai fait tout un tour dans les écoles, etc., je leur ai raconté une version... De Cendrillon. Il y a plein de... J'ai pas envie de dire pourquoi dans le sens que je réduirai le sens que chacun peut y mettre. Mais je peux dire ce qui pour moi fait... Et déjà, dans cette version de Cendrillon, par exemple, la belle-mère veut absolument que ses filles soient reines. Hein? Oui. Donc elle essaie absolument de faire rentrer leurs pieds dans la chaussure en verre et évidemment elle n'y arrive pas. Donc après avoir pris la précaution de demander au prince de tourner sa tête parce qu'il est trop tôt pour voir le pied nu de sa fille, elle sort un couteau de sa poche et demande à sa fille de couper son orteil. Elle dit quand tu seras reine, tu n'auras pas besoin de marcher, coupe ton orteil. Ce qui est important, c'est que ton pied rentre dans le soulier. Et le pied rentre dans le soulier. La première se coupe l'orteil, la deuxième se coupe le talon, mais
ça rentre.
Mais en fait, le prince finit par s'apercevoir quand même que ce n'est pas ça. Voilà. Mais ça, couper, trancher, c'est quelque chose que connaît bien Peter. Lui, il a coupé la main du capitaine Crochet, il l'a jetée au crocodile. Tout ce qui y est de l'amour, quand même, il y a quelque chose, c'est un mystère pour lui. Mais il y a aussi toute la cruauté, l'abandon, l'abandon de cette petite Cendrillon qui fait écho à sa propre histoire. Si on écoute Peter Pan, il y a plein de correspondances et puis des grandes différences qui, à mon avis, le fascinent. Le fascinent. Parce qu'il est très seul au final, Peter Pan.
Alors, forcément, si tout glisse sur lui, qu'il est amoureux de rien ni de personne, etc.
Voilà, puis tu les enfants perdus quand ils grandissent, parce qu'il est interdit de grandir sur l'île de Jamais Jamais. Donc dès qu'on grandit,
on est tué par Peter Pan. Hein. Quand on est sur l'île de Jamais Jamais, quand même, qu'on est un enfant perdu, on risque de se faire scalper par les pirates, par les peaux rouges, de se faire trucider par les pirates, de se faire manger par les bêtes sauvages. Et Peter Pan n'est pas le dernier à vous faire passer l'arme à gauche si vous avez grandi. Donc, je veux dire, c'est une vie quand même... C'est pas de tout repos non plus.
Les pirates préparaient leur attaque. Ou plutôt, ils préparaient la dernière phase de leur attaque. Depuis que le capitaine Crochet avait découvert la cheminée de la maison souterraine, il combattait Peter et sa bande le jour, mais la nuit, en chantant à tue-tête « Eh oh, Iseo, le drapeau noir à tête de mort !» Pendant ce temps, Clochette volait à tire-d'aile au-dessus de la mer. Elle était très contente de ramener Wendy chez elle. Seulement voilà, quand elle se retourna, elle s'aperçut qu'elle volait seule. Clochette fit un demi-tour rageur. En passant au-dessus du Jolly Roger, le navire des pirates, elle vit sur le pont Wendy et les garçons. Ils étaient alignés devant Crochet, chaînes aux pieds. Clochette se dépêcha de prévenir Peter. Dès qu'il apprit cette nouvelle, Peter attrapa son poignard et dit « Cette fois, Crochet, c'est toi ou moi !»
Pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours saluer le petit roi, le paquetier. On peut peux toujours espérer entrer un jour dans la famille, ce que tu pourras devenir. Un crack pour si à toi tout seul on pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines, infiniment se voir rouler dans la farine. À l'envers, à l'endroit. Y a-t-il un incendie prévu ce soir dans l'hémicycle? On dirait qu'il est temps pour nous d'envisager un autre cycle. On peut caresser des idéaux sans s'éloigner d'en bas. On peut toujours rêver de s'en aller, mais sans bouger de là. Il paraît que la blanche colombe a 300 tonnes de plomb dans l'aile. Il paraît qu'il faut s'habituer à des printemps sans hirondelles. La belle voix dormant rompu les négociations. Unilatéralement, le prince entame les protestations. Doit-on se courber encore et toujours pour une ligne droite? Prière pour trouver les grands espaces entre les parois de la boîte. Serait-ce un estuaire ou le bout du chemin loin qu'on entrevoit? Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. Autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrêtent sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit.
Paul, si tu nous parlais un petit peu de toi, tu nous parles de toi aussi à travers ce spectacle-là, forcément. Mais
en vérité, moi, le comment dire, en fait, ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux devenir conteuse professionnelle, c'était surtout pour m'obliger à prendre les risques qu'il fallait pour progresser, en vérité. À un moment donné, je me suis rendu compte que, qu'être conteuse amateur, ça me permettait de me planquer derrière, et que du coup, je ne faisais pas le travail que les histoires exigeaient que je fasse. Donc, soit j'arrêtais de raconter, soit je changeais de statut pour plus pouvoir me cacher derrière. Oui, non, mais moi, j'ai une petite conteuse amateur.
C'est d'ailleurs un mot qui circule beaucoup là, au sein de l'APAC, l'Association professionnelle des artistes conteurs, ce mot de l'exigence artistique, hein. Donc voilà, voilà. Alors
mais c'était pour moi-même, quoi, hein, voilà, pour moi-même, enfin, une exigence vis-à-vis de moi-même, mais aussi parce qu'à ce moment-là j'avais pas cette notion du collectif, enfin, et tout ça, et une exigence par rapport aux histoires que j'aimais énormément. Donc j'avais envie de bien les raconter.
D'en faire plus pour elles, quoi, d'une certaine façon.
De mieux les dire, de mieux les partager, parce que quand même, c'est pas évident de raconter des contes merveilleux dans notre monde. Tu vois, il y a quand même plein de gens qui sont... Ils vont dire, qu'est-ce que vous racontez encore au XXIe siècle, d'histoire de princesse, tout ça, puis c'est complètement... machistes, les princesses attendent bêtement que le prince charmant vienne. Il y a plein de quiproquos, plein de choses qui ne sont pas comprises dans ces récits, qui sont merveilleux au sens que c'est des beautés sublimes, ces contes. Et on n'a pas Enfin, il manque sans doute des clés et surtout des fréquentations et un abandon de soi-même pour écouter ça, se laisser toucher. Voilà, maintenant, tout ce qui est, on va dire, ouvrir son cœur et tout ça, c'est ridicule, ça fait rire, c'est des mots bébêtes, etc. Alors que je pense que les êtres humains ont besoin de ça, mais vraiment, j'en suis maintenant convaincue, et ça m'est bien égal de passer pour je ne sais quoi, ça m'en fout. Pour moi, c'est fondamental, fondamental. On en a absolument besoin. Et dans le monde dans lequel on vit actuellement, là, aujourd'hui, ces temps-ci, je veux dire, alors pour moi, c'est vraiment, c'est presque vital. C'est ce qui, ça fait partie des choses qui peuvent nous sauver la vie au sens vraiment fort du terme. Parce que
tu peux développer un petit peu ça, justement. En quoi, selon toi, le sens peut nous sauver la vie? Quel parallèle on peut faire avec les difficultés là, du compte, les difficultés du quotidien d'aujourd'hui? Justement, c'était une question, le leitmotiv de cette émission, c'est souvent et le compte dans ce monde d'aujourd'hui. Pourquoi le compte dans ce monde où tout va à 100 à l'heure, c'est d'accord, mais enfin, voilà, on a des préoccupations. Qui sont bien souvent liés au travail, à l'alimentaire, à se loger, etc. Et ces comptes-là qui arrivent à certains moments, pourquoi, quelle place ils ont dans le monde d'aujourd'hui?
Enfin, moi, ma perception de ce qui se passe en ce moment même, ma perception, c'est qu'il y a une grande souffrance, globalement, des gens dans le monde du travail, etc. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'ennui, beaucoup d'angoisse et aussi beaucoup de lassitude et de perte vitale. C'est-à-dire que les gens sont hyper précarisés, leurs conditions sont de plus en plus médiocres, etc. Et que se passe-t-il par rapport à ça? Quel refus on met en place? On met des petits refus. On va manifester un jour, on fait grève une journée, puis on rentre. C'est inadapté à la situation scandaleuse, avec des gens qui sont scandaleusement riches, dans le sens, ça ne les aide pas eux non plus, quoi. C'est des pauvres types, je veux dire, au final. Et d'autres qui meurent de faim. Enfin, tout ça est tellement aberrant. Et on fait rien. Au final, on ne fait rien. On n'a pas l'énergie de le faire. Et je trouve que déjà, une des choses des contes, c'est que ça donne de l'énergie. Ces contes merveilleux sont des contes qui renforcent notre capacité de combat. Et je trouve que d'une certaine manière, ils peuvent donner des clés. Hein. Les héros des contes, ils ne sont pas forts. Hein. Ils n'ont pas d'armes. Ils sont, voilà. Mais ils vont utiliser autre chose. Ils n'ont pas de fortune, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas... Qu'est-ce qu'ils ont pour combattre? Ils ont leur vivacité. Ils ont leur foi, on pourrait dire au sens large. Ils ont leur courage. Ils ont qu'ils y vont. Puis des fois, ils ne savent pas. Ils y vont. Allez, il faut y aller. Voilà. Et tout ça donne un résultat parce qu'il faut commencer. Il faut le faire vraiment. Et ça s'ouvre. Et je pense qu'on n'est juste pas assez nombreux pour que ça tourne. Et on n'y croit pas assez. Et on est découragé, beaucoup trop de découragement. Voilà, il y a une vitalité qui est perdue. Et ces contes ont beaucoup de vitalité, beaucoup de vitalité. Ça, c'est une raison. Tu vois, je pense qu'on a besoin de rêves, qu'on a besoin de poésie, que le conte amène ça, mais il amène aussi une réflexion, et aussi une réflexion politique. Mais l'air de rien, avec chacun qui a de la place pour organiser ça. Mais moi, je pense que je suis vraiment convaincue que si le conte faisait partie de notre vie quotidienne, à l'ensemble, on aurait des armes pour se défendre. En tout cas, moi, pour mon expérience personnelle, je peux dire que les contes ont transformé ma vie, mais alors d'une façon extraordinaire.
On le voit, on a eu le plaisir d'interviewer des gens comme Serge Boismard, par exemple, qui utilise le conte en milieu scolaire avec des collégiens. Et ma foi, ce conte-là est un, est un outil pour les jeunes gens très précieux pour leur développement, quoi. Hein. Voilà, bah écoute, Paul, nous avons passé un bon moment avec toi. Le secret de Peter Pan reste entier.
Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Charles.
Sur l'île de Jamais-Jamais vivait un petit garçon. Dans mon lit, jamais-jamais iront secret son nom.
Voilà, cette émission touche à sa fin. J'étais très heureux de passer cette heure en votre compagnie et en compagnie de Paul Latore. Si vous avez envie d'entendre le secret de Peter Pan, il faudra faire venir la conteuse chez vous ou bien attendre qu'elle enregistre le spectacle, ce qui, selon nos sources, pas un mot, hein, pourrait ne pas tarder. Pour écouter cette émission et toutes les autres, vous pouvez faire www.c'estpaspourdire.fr et télécharger nos enquêtes de contes. En attendant la prochaine, je vous dis salut!
Était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.